Vous recherchez une formation vraiment enrichissante? Les Compagnons du Tour de France vous invitent à leur journée portes ouvertes. Avec des formateurs passionnés et des centres dans toute la France, les Compagnons du Tour de France vous proposent des parcours d'excellence dans les métiers d'art et du bâtiment pour les jeunes dès 14 ans et des formations professionnelles pour les adultes. Pour connaître toutes les dates des portes ouvertes près de chez vous, rendez-vous sur compagnonsdutourdefrance.org. Les Compagnons du Tour de France, la transmission des savoir-faire. Vous écoutez
RMC.
RMC, les grandes gueules, les GG et vous.
On y va avec Junior. Il veut parler du jour du dépassement avec Marianne Soubré. On réécoute l'extrait de Marianne.
Et on est le pays d'Europe d'ailleurs qui a la plus forte, on va dire, taux de natalité, mais c'est pas non plus énorme. Après, permettre dans des pays où les femmes n'ont pas accès à la contraception, leur donner la contraception pour éviter justement qu'il y ait trop de pauvreté dans les familles parce qu'on n'arrive pas à nourrir tout le monde, oui, bien sûr. Mais cette histoire, les gens qui te disent tu fais des enfants parce que t'es un égoïste, si tu veux, moi ça, je ne veux pas l'entendre dans des pays, on va dire, occidentaux.
Attends. Junior, bonjour.
Bonjour toute l'équipe des Grandes Gueules, merci de m'accueillir et de m'écouter.
Allez-y, Marianne vous écoute.
Donc, je voulais faire une remarque donc à propos de ce fameux jour, hein, le jour où l'humanité vit à crédit, où on a dépassé la production de nos ressources naturelles. En fait, j'ai écouté cette remarque, ce qui m'a fait appeler l'équipe des Grandes Gueules. Et en fait, j'étais un petit peu un peu choqué par cette remarque, parce que, bon... Je veux bien qu'on régule les naissances dans les pays où, entre guillemets, les femmes n'ont pas de moyens de contraception, où quand on a une famille nombreuse, c'est difficile de pouvoir nourrir tout le monde. Mais ce que je tenais à dire, c'est que ce ne sont pas dans ces pays-là où on consomme le plus. Juste pour vous donner une petite idée. Ok, les États-Unis, deuxième plus gros consommateur d'électricité au monde. La puissance moyenne par habitant en consommation, en watts par habitant, est de 1378. Vous vous rendez compte? Et si je prends un pays du tiers-monde, ou, enfin, c'est méchant de dire ça, mais l'Angola, par exemple, on est à 45 watts par habitant et par an. Donc, ce que je tenais à dire, c'est que c'est pas en régulant les naissances dans les pays où les femmes ont pas d'accès à l'éducation, où les femmes n'ont pas de moyens de contraception, qu'on va améliorer la situation. Je pense qu'il faudrait revoir, en fait, notre modèle sociétal. C'est tout là le problème.
Dans les pas.
Alors. Junior, bonjour. Je crois que vous n'avez pas entendu le début de mon intervention.
Si, j'ai entendu le début de votre intervention.
Le début, c'était justement de dire que ce débat était un débat de riches. Et qu'effectivement, pour pouvoir consommer, il faut être riche. Donc ça, moi, je vous rejoins. Et les gens qui consomment le plus sont évidemment les plus riches du monde. Mais dans le même temps, si vous avez une population mondiale qui augmente, nécessairement, ils auront, ces personnes-là, et c'est normal, besoin de ressources supplémentaires. Et venir dire, parce que ça, enfin, je veux pas dire que c'est un raisonnement d'homme, mais quand même, c'est un raisonnement d'homme, je le dis. Sachez, croyez bien, qu'une fille qui va à l'école, une fille qui est scolarisée dans le monde, quel que soit l'endroit dans le monde, eh ben, cette fille-là, elle va se marier plus tard, elle aura moins d'enfants.
Je suis tout à fait d'accord avec vous.
Et voilà. Et donc, pour moi, le bien-être universel, c'est que les femmes puissent avoir accès à l'éducation, parce que derrière, eh ben, la population, mais alors c'est mécanique, la population mondiale va diminuer, parce qu'aucune femme ne choisit dans le monde, certaines oui, dans des pays justement où elle pourrait avoir accès à la contraception, mais honnêtement, avoir 10, 20 enfants dans une vie, je ne suis pas sûre que ce soit le sens d'une vie pour une femme.
Non. Vous savez, je vais vous faire une petite anecdote. Je viens d'une famille nombreuse. Ma mère a eu 7 enfants.
Oui, elle l'a choisi ou pas?
Comment?
Elle l'a choisi ou pas?
Ah ben, elle les a voulu, les 7.
Ah ben voilà, mais ça c'est autre chose.
Je l'espère qu'elle l'a voulu, mais théoriquement, on est tous arrivés dans ce monde parce qu'à un moment donné, elle le souhaitait. Mais voilà. On vient d'une famille nombreuse. Je viens d'une famille où le partage règne. Vous savez, mes petits frères, ils ont eu mes vêtements. Ils ont eu un de mes cartables. Le temps qu'ils ont duré. Ce que je conçois pas aujourd'hui, c'est ce modèle, en fait, sociétal où il faut toujours acheter, toujours consommer.
Ouais, c'est vrai.
Toujours pousser les gens à avoir le dernier cri, la dernière mode, et en définitive, on se rend compte que c'est ça le problème. Et quand on vient, bon, moi, je suis d'origine brésilienne, je suis né au Brésil, mes parents immigrés à l'âge, enfin, quand j'avais 2 ans en Guyane française, j'y ai grandi jusqu'à mes 15 ans. À 15 ans, on a déménagé en métropole parce que mes parents divorcés, que ma mère s'est remariée. Soit. Mais on a toujours eu cette politique, on va dire, à la maison, dès mon plus jeune âge, que bon, bah, il faut toujours tout partager avec tes frères. On est 6 garçons, hein, et bon, une petite sœur qui est décédée, malheureusement, étant très jeune, oui.
Finalement, vous rejoignez, voilà, ce qu'avaient dit les grandes gueules, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle aujourd'hui sociétal qui montre ses limites, et on doit réapprendre à recycler, à partager. Ouais. Et ce qu'on faisait il y a 40 ou 50 ans, quoi, ou même encore dans les années.
Ce qu'ont fait nos parents après la guerre.
Junior, merci de ce témoignage. Vous avez interpellé Marianne. Sylvie, bonjour.
Bonjour.
Vous voulez interpeller qui dans un instant, Sylvie ?
Ben, c'est Barbara.
Barbara, on verra ce que vous avez à lui dire, à Dame Barbara. À tout de suite avec les grandes gueules.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
J'ai entendu à la radio ce matin.
RMC.
Un bruit étrange court dans Paris.
Dis-moi pas que c'est pas vrai.
Sans blague.
À ton understand.
9h.
Qu'est-ce qu'il y a?
Midi.
Mais pourquoi tu m'écoutes pas?
Qu'est-ce qu'il dit?
Pourquoi tu m'écoutes jamais? Qu'est-ce que c'est que ça?
Salut le mec, service.
À la Marshall.
Savez-vous quel est le point commun entre tous ces personnages?
Les grandes gueules.
Dans cette nature magnifique et sauvage, où la vie animale fait sa loi, il existe pourtant une règle simple.
Pouvoir grand dans la vie.
Les GG, les grandes gueules, RMC, RMC Story, les grandes gueules avec aujourd'hui Barbara Lefebvre, Marianne Soubré et Étienne Liebig. Et c'est le GG et vous qui continue avec Sylvie. Donc Sylvie, je vous écoute, ou plutôt... Barbara vous écoute à propos de la précarité, à propos de ce que tu disais tout à l'heure sur cette France qui est fracturée. Petit extrait de Barbara.
Quand on est un gilet jaune, qu'on vit dans la France périphérique, je vois pas en quoi on est empêché ou on est obligé de manger de la viande tous les jours. Mais il vaut mieux pas manger de la viande que bouffer du steak surgelé qui vaut rien, ou de manger de la nourriture transformée.
Non, mais ce qu'ils veulent aussi, il y a beaucoup de gens, ce qu'ils voudraient, c'est manger tout simplement.
La France n'est pas un pays où il y a de la famine. Faut pas pousser.
Oui, d'accord. Mais
alors Sylvie, allez-y, Barbara vous écoute.
Donc bonjour à tout le monde déjà. Voilà, Barbara, j'aimerais que vous m'écoutiez jusqu'au bout parce que quand je regarde l'émission, des fois vous vous entrecoupez, vous coupez aussi les auditeurs et nous on n'a pas beaucoup de temps à exprimer notre sujet. Donc voilà, déjà je voudrais vous dire que la précarité, je voudrais vous poser la question, vous la connaissez ou pas? Vous l'avez vécu?
Ah, vous me posez une question parce que vous m'avez dit, je voulais vous écouter jusqu'au bout.
Oui, mais là, je vous pose cette question. Est-ce que vous avez connu la précarité?
La précarité, c'est-à-dire que ne pas avoir de salaire.
Est-ce que vous avez vécu dans un camion? Est-ce que vous avez manqué de manger? Est-ce que vous avez galéré?
Non, j'ai pas manqué de manger, mais dans ma famille, oui, il y a eu des gens qui étaient dans la très grande précarité.
Non,
oui.
Très bien.
Alors, non, mais ça, c'est une éducation aussi qu'on reçoit et c'est une exemplarité aussi. Madame, et c'est une histoire familiale, voyez-vous.
Mais madame, moi, je viens d'une famille aussi qui roulait pas sur l'or. Et je veux dire une chose, je suis infirmière, j'ai 35 ans derrière moi de métier, infirmière psychologue. J'en ai 59 maintenant, on veut pas me donner un boulot à plein temps parce que je coûterais trop cher au niveau de l'échelon et je suis surdiplômée. Deuxièmement, avec mon mari de mai 2016 à 2017 octobre, on a vécu dans un camion avec 2 chiens. On s'est retrouvés à la rue. On a fait des croix à la bannière pour essayer d'avoir un logement. On nous le refusait parce qu'on n'avait pas d'enfants. On a travaillé dans les campings. Moi, j'ai fait les poubelles sur les marchés. J'ai aidé sur les marchés aussi. Mon mari a fait des petits travaux. Il a fait du black parce qu'il n'avait pas le choix. Et maintenant, on commence à sortir seulement de la tête de l'eau. Et mon mari touche 1100 euros pour travailler pour une commune. Il travaille dans les espaces verts. Hein. Moi, je fais des petites vacations. On me paye 500 euros par mois. Comme ça, par-ci, par-là, parce que je ne trouve pas quelque chose de fixe. Hein. Mmh. On nous a retiré des APL. Et j'ai un loyer à Pirigny, aux HLM, de 614 euros. Et on m'a augmenté de 28 euros, soi-disant, parce qu'il y avait des charges qui avaient dépassé. Et à la fin du mois, mais c'est pas le 15 mois, c'est le 2 du mois où je n'ai plus rien. Mmh. Alors, quand vous dites que... Et en plus, on a pendant un temps, on était au Secours catholique et on nous donnait des steaks hachés, comme vous dites si bien. Et certains étaient moisis.
Oui.
Il y avait même du panini qu'on nous donnait, qui était moisi. Et c'est pas vieux, c'était en octobre 2017, vous voyez.
D'accord. Donc,
Alors, là
où vous m'avez mal comprise, c'est que je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas en France de précarité. J'ai jamais prétendu même qu'il y avait des gens qui mangeaient pas à leur faim. Je crois qu'il y a une grosse problématique en France de sans domicile fixe. Donc je ne vais pas prétendre que la précarité n'existe pas en France. Ce que je disais simplement, c'est que la majorité des personnes qui notamment se sont exprimées dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes n'étaient pas des gens qui mouraient de faim au sens où on était dans une situation de gens qui n'avaient pas de quoi se nourrir. Mais en revanche, les situations de précarité telles que celles que vous décrivez et qui est la vôtre, bien sûr que ça existe. Et c'est un fléau dans notre pays, de la même façon d'ailleurs que tous les hivers, on reparle des campagnes des Restos du Cœur, et on s'y est habitué depuis plus de 20 ans, comme si c'était naturel qu'on vive dans un pays où il faut donner gratuitement à manger à des gens qui n'ont pas de quoi vivre, parce que justement, le problème que vous soulevez, c'est un problème d'accès à l'emploi. Parce que vous avez un métier apparemment, et il est anormal, excusez-moi, dans une société développée comme la nôtre, que quelqu'un qui est diplômé comme vous l'êtes ne puisse pas travailler. Donc la problématique que vous évoquez ici, c'est une problématique d'accès à l'emploi et de pouvoir travailler et vivre correctement de son travail. Mais je n'ai jamais nié qu'on pouvait avoir des accidents de la vie qui nous mettaient en situation de précarité. J'ai jamais prétendu que ça n'existait pas. Je dis simplement que c'est une problématique de société globale et quand on a un métier comme le vôtre, on devrait pouvoir trouver un travail suffisamment rémunérateur pour ne pas se retrouver dans votre situation.
Voilà Sylvie, je vous envoie un t-shirt DGG. Merci de ce témoignage en toute franchise et en toute liberté dans les GG. Dernier GG et vous, c'est pour Marianne Soubré. La charge mentale, homme, femme, pourquoi n'a-t-on pas davantage de femmes qui s'engagent en politique? C'était l'appel de Marlène Schiappa pour les élections municipales, donc on réécoute Marianne et elle en parle avec Roland.
Si les femmes étaient, si on était vraiment dans une véritable égalité des couples, éventuellement les femmes pourraient s'engager. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Enfin, elles ont sur elles les courses, les travaux ménagers, etc. Alors toutes les études le montrent parce que c'est bien beau quand même de nous dire égalité, répartition des tâches ménagères, etc. C'est 70-30 en fait dans la façon dont les tâches ménagères sont prises en charge. Mais
justement,
dans un
si
couple.
Tu veux faire Roland, bonjour.
Oui, bonjour.
Allez-y, Marianne vous écoute.
Bonjour Roland.
Voilà. Bonjour Marianne. Voilà, je voulais juste intervenir pour vous dire d'abord que je vous aime bien, j'aime bien toute l'équipe, hein, bonjour à toute l'équipe, mais pour vous dire que dans les 70-30, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. Vous savez, moi je me levais à 3h30, 4h tous les matins pour aller travailler en Allemagne, 1h30 de route aller, 1h30 de route retour. Ensuite, je faisais 8 heures de travail par jour en tant que plâtrier. Et quand je rentrais, je m'arrêtais au supermarché, je faisais les courses. Et si la vaisselle de la veille ou du matin n'était pas faite, on n'avait pas de lave-vaisselle, je faisais encore la vaisselle parce que ma femme ne rentrait pas de l'usine. Vous voyez, c'était vraiment le partage des tâches à 50-50. Vous voyez, je sais, vous avez raison dans un sens quand vous dites que c'est une minorité d'hommes qui font ça. Voilà. C'est vrai, mais mais vous avez raison sur le fond, vous avez raison. Mais cette minorité, j'aimerais bien qu'on la mette en avant. Voilà.
Alors,
c'est ça que je voulais dire.
Il y a un cas particulier qui se heurte à
Roland,
la statistique générale.
Je l'ai dit d'ailleurs, hein, j'ai dit messieurs, vous qui faites ça, bravo. D'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est très bien. Et Roland, en plus, vous aviez beaucoup de routes et vous deviez être fatigué. Donc, mais comment vous dire? Je vais pas non plus vous décerner une médaille d'avoir fait votre travail au sein du couple. Votre exemple, qui est malheureusement aujourd'hui encore minoritaire, j'aimerais bien que ça soit tout simplement la norme. Mais aujourd'hui, ça ne l'est pas encore. C'est tout. C'est comme ça. J'espère qu'à la génération, j'espère que mon fils en fera plus. J'espère que voilà. Mais c'est un problème générationnel aussi. Petit à petit, les choses s'inversent. Il y a évidemment de plus en plus de pères qui s'occupent de leurs enfants. Au niveau de la génération de mes parents, c'était vraiment pas ça. À ma génération, il y a eu évidemment, enfin, il y a effectivement beaucoup plus de pères qui s'impliquent pour leurs enfants. Mais statistiquement, vous êtes quand même, la façon dont vous avez vécu avec votre femme est quand même encore minoritaire. Mais j'aimerais bien que ça soit l'usage normal.
Merci Roland, à bientôt pour de nouvelles discussions dans les GG, dans les Grandes Gueules. On se retrouve demain. Demain, coup d'envoi des Grandes Gueules à 9h sur RMC, RMC Story. Nous serons avec Maxime Liedo, étudiant en histoire, Fatima Idounoua, professeur de français en cours de recours. reconversion. Et nous serons avec David Dickens, directeur marketing du Cirque Phoenix. Et à 11h dans le grand oral des GG, un détour du côté de l'Assemblée nationale encore, des bandes de la France insoumise. Et c'est le député du Nord, Hugo Bernalicis, qui viendra répondre aux différentes questions des GG des grandes gueules. Passez une bonne journée et rendez-vous demain 9h en direct sur RMC et RMC Story. Je compte sur vous.
RMC, les grandes gueules.